sans frontières.
Bonjour, Cinéma sans frontières commence une nouvelle saison avec un film qui s'appelle La Partie et le réalisateur en est Blake Edwards. La Partie est un film comique. Il appartient au genre burlesque, genre où les gags foisonnent et où le spectateur est invité à rire le plus souvent possible. Le mot burlesque est d'origine italienne ou espagnole. C'est un mot qui signifie en gros plaisanter. Burla en espagnol est une plaisanterie. Parmi les maîtres du genre, on notera de nombreux génies. Soyons chauvins, commençons par un Français. Et ce Français s'appelait Max Linder. Mac Sennett et Chaplin lui ont rendu cet hommage de l'imiter beaucoup et de reconnaître leur dette à l'égard de Max Linder. Alors que les frères Marx lui ont emprunté la célébrissime séquence du miroir brisé sans le citer. C'est un plagiat peut-être, mais aussi un hommage certainement. Je pense aussi entre autres à Charlie Bowers, qui fut un immense artiste, et comment ne pas penser à Buster Keaton, Henry Langdon ou bien entendu Chaplin. Mais Stan Laurel et Oliver Hardy ont plus que les autres mon affection. Il se trouve que les admirateurs de Stan Laurel, Jerry Lewis ou Blake Edwards, lui ont rendu hommage plus d'une fois. Ce qui me réjouit. C'est justement d'un film de Blake Edwards dont il est question aujourd'hui. Blake Edwards est né en 1922, en Oklahoma. Sa famille s'installe à Los Angeles en 1925 et il commence une carrière d'acteur dans les années 40. Puis, il est scénariste pour Richard Quine, je ne sais comment prononcer son nom. Il réalise son premier film de cinéma en 1955 et connaît un grand succès public grâce à Opération Jupon, avec notamment Cary Grant et Tony Curtis. C'est en 1959. Avant de réaliser La Partie, il connaît de notables réussites, dont Diamant sur canapé, avec Audrey Hepburn, en 1961, dont le tube Moon River est actuellement couvert par ma voix. Puis entre autres, La Panthère Rose et Quand l'inspecteur s'en mêle. La Panthère Rose devient une série où revient le personnage de Jacques Clouseau, un inspecteur français calamiteux, interprété par Peter Sellers, et qui est mondialement connu. Peter Sellers est un acteur britannique, né en 1925. C'est un homme de radio, un musicien, un réalisateur. Il a adapté le fameux Topaz de Marcel Pagnol en anglais. Il est connu pour son sens de l'improvisation. Il prend facilement tous les accents. Adore se déguiser. Bref, un homme qui aime l'humour absurde. Dans les années 50, en compagnie de Spike Milligan, il crée le Goon Show. Donc c'est une émission de radio où il a tendance à beaucoup s'amuser, on va dire. Dans Soyons fous, en 1951, il endosse 5 rôles, dont celui de Groucho Marx, lui-même. Comédien, Peter Sellers crève l'écran avec 2 films de Stanley Kubrick, Lolita et Docteur Folamour. Dans Docteur Folamour, il tient 3 rôles avant d'être engagé par Blake Edwards dans le premier Panthère Rose. Là encore, sa prestation, alors que son personnage farfelu n'est pas le seul premier rôle, fait de lui le seul et unique Clouseau de l'histoire. Je tairai charitablement les suites réalisées après sa mort. Le tandem Edwards et Sellers fait une infidélité à la Panthère Rose en 1969. Cette infidélité s'appelle La Partie. La Partie est un film réalisé en 1968. il n'échappe à personne que la situation politique et sociale dans ces années-là est remise en question par la jeunesse, les femmes, les minorités. La partie est un témoignage de cette remise en question. Comme d'autres films dont je ne parlerai pas d'ailleurs, je n'ai pas le temps. Le film débute par un pré-générique, à la fois allusif et hilarant. La musique de Cornemuse accompagne la marche d'un régiment écossais en rang par deux. Ce régiment est composé de sosies de Laurel et Hardy. La scène fait référence au film Bonnie Scotland, en français « Bon pour le service » de James Horne. Ce régiment est en Inde au moment où les Anglais répriment la révolte des Tugs. Or, ces derniers, tapis derrière des rochers, s'apprêtent à attaquer les braves colonisateurs anglais quand s'élève le son d'une trompette tenue par un Indien qui avertit le régiment écossais du danger. Immédiatement, les Tugs tentent de le tuer. Le pauvre souffleur de trompette est immédiatement criblé de balles et... Mais son sacrifice n'aura pas... Attendez, non. Il continue de souffler dans son instrument. Il se relève, il est debout, mais il retombe sous le tir nourri des balles ennemies. Mais se relèvera encore, un coup de rein. Et il réembouche son cornet pour la grandeur de la couronne britannique. Désormais, il attire vers lui toutes les munitions utilisées par les Tugs. Son dernier souffle, il passera dans son cornet. Mais on entend alors une voix... qui ordonne de couper. Couper. Car nous sommes sur un plateau de cinéma. Nous ne sommes pas en Inde, mais à quelques minutes de Hollywood, et il s'agit d'un remake d'un film de George Stevens sorti en 1939 qui s'appelait Gunga Din. Inutile de dire que cette scène sera coupée au montage en toute probabilité. L'acteur qui joue l'Indien qui souffle dans son cornet, l'acteur, qui n'en fait qu'à sa tête donc, étourdi, gaffeur, est un Indien appelé Hundi V. Bakshi. Retenez bien son nom, Hundi V. Bakshi. Il est interprété donc par Peter Sellers, grimé en Indien. Un Indien, entendez, qu'il vient d'Asie. de l'Inde. Gérer cet homme est un pari risqué. Il gâche la scène suivante parce qu'il a gardé au poignet une montre de plongée qui n'existait pas au moment du récit. Et il détruit par distraction le décor coûteux en faisant exploser le fort, élément essentiel de la scène finale. Il est chassé du tournage avec la promesse menaçante de ne plus jamais être embauché sur un plateau de cinéma et même de télévision. Je viens de décrire juste le début du film, mais je continue. Donc l'Indien Gaffer s'appelle Rundi V. Bakshi. C'est pas un mauvais comédien, il est simplement gaffeur. Bon, donc là, il est blacklisté et il ne peut plus prétendre à une carrière hollywoodienne. Or, mégarde ou malchance, le producteur, M. Clutterbuck, informé de ce bannissement à vie, au lieu d'ajouter son nom à la liste noire, l'inscrit au bas d'une liste d'invités à la partie qu'il donne annuellement. Hélas, hélas. Son nom est le 13e de la liste. Mauvais présage. La partie qui donne son titre au film ouvre la voie royale à l'une des grandes figures du burlesque, celle de l'inadapté chronique, celui qui, pour des raisons qui échappent à l'entendement, n'entend pas grand-chose aux codes sociaux et qui les bouleverse. Il rit trop fort aux blagounettes, rit encore quand il faudrait se désoler et compatir à la douleur d'un sénateur dont la maison a été cambriolée. Il entre en contact avec les invités en leur demandant s'ils parlent hindoustani. Il provoque autour de lui quelques catastrophes, mais personne ne semble lui en vouloir. Quand il cherche à s'en excuser, on lui répond « Mais non, ce n'est rien, oublions tout ça ». Pourtant, il contribue, par exemple, à l'interruption du dîner par éparpillement spatial du dessert, mise à feu d'un poulet qui aboutit sur la perruque d'une convive, renverse plat des tables. Bref, il détruit tout, y compris, un peu plus tard, la salle d'eau, les toilettes, une partie de plancher, la batterie de l'orchestre de jazz. Sans scier, la musique continue, comme sur le Titanic. Mais non, ce n'est rien, oublions tout ça. Le film apparaît comme un long slow burn. Un slow burn, traduire par combustion lente, c'est un procédé comique qui nous permet d'assister au bouillonnant martyr d'un personnage, souvent puissant, soumis à un tortionnaire, parfois involontaire. Le roi du slow burn, c'est quand même bien Laurel Hardy. C'est la pseudo-patience affichée par le producteur richissime, M. Clutterbuck, qui temporise, ne veut pas faire de vagues, et il est un des moteurs comiques du film. La plupart de ses invités sont comme lui. Il s'étonne de la personnalité de Rundi V. Bakshi, mais semble ne pas voir les dégâts occasionnés par le personnage. Une des chaussures de Bakshi vole jusqu'à la cuisine. Elle atterrit sur un plateau d'apéritif. Personne n'y prête attention. Pas même le maître d'hôtel qui présente le plateau d'amuse-gueule lesté d'un éclatant mocassin blanc. L'utilisation amusée des commandes électroniques de la maison fait pivoter le bar et noie ce qui se trouvait dessus, car la maison est une maison où passe un ruisseau. « Ça n'a aucune importance !» grommelle le producteur Clutterbuck, qui n'a qu'une hâte, c'est que tout ça se termine. La présence chez lui parmi ses invités de Rundi V. Bakshi, bon, pas grave, il faut toujours qu'il y ait un exemplaire de ce genre d'énergumène. Comment-il désabuser en pensant que c'est sa femme qui a commis l'erreur d'inviter ce drôle de type. Ce que dénonce Blake Edwards à travers le rôle de Clutterbuck et l'aveuglement des invités face au bouleversement créé par l'inadapté interprété par Peter Sellers, c'est le déni de réalité des classes dirigeantes. Rien n'est grave tant que l'essentiel des valeurs n'est pas atteint. L'essentiel des valeurs, qu'est-ce que c'est ? Pour Clutterbuck, visiblement, il sort de ses gonds à partir du moment où l'inondation dans sa maison et la mousse de savon envahissent sa demeure. Il donne l'ordre au valet de sauver les tableaux, les œuvres d'art. Et quand l'un d'eux décroche le portrait de Madame Clutterbuck, son épouse, il gronde « Mais pas celui-là, imbécile !» Car La Partie est un film burlesque porteur de messages critiques. Le contexte de 1968 aux États-Unis comme ailleurs est une contestation générale. Aucune idée n'est mieux partagée que l'idée d'un vieux monde à l'agonie qui doit être aboli et remplacé par le partage de l'amour, de la générosité, enfin bon, toutes ces fariboles, n'est-ce pas ? L'année précédente, en 1967, Jacques Tati sort Playtime, que Blake Edwards a sans doute vu comme il a vu Les Vacances de Monsieur Hulot et mon oncle. On y aperçoit le même calamiteux tableau de commande électronique générateur de catastrophes, de chaleur, de souffle d'air froid. De plus, la fin en est très proche puisqu'on voit son personnage, l'inadapté Monsieur Hulot, participer à la destruction d'un restaurant, le Royal Régent, comme la maison du producteur Clutterbuck dans La Partie. Une parenthèse pour dire l'importance de Jacques Tati dans cet art si difficile du comique, pour dire qu'il fut une référence pour Blake Edwards, mais aussi pour Marty Feldman ou Rowan Atkinson, plus connu sous le nom du personnage inadapté Mr. Bean. Le film dénonce un personnage insupportable, un autre producteur, Monsieur Divot, dont l'essentiel de l'activité et de promettre des carrières à des jeunes filles en échange de rapports sexuels. Les scènes ne sont jamais vulgaires. Par contre, le producteur interprété par Gavin McLeod, mieux connu pour son rôle dans La Croisière s'amuse, où il interprétait, je vous le rappelle peut-être, il interprétait le rôle du capitaine Stubbing. Eh bien, le producteur C.S. Devote est présenté comme un parfait salaud et ridiculisé comme il se doit. On pourrait penser que ce film cherche à faire rire en utilisant les vieux ressorts de la contrefaçon des accents étrangers, ou la difficulté d'intégration des personnages du tiers-monde, ou des minorités. Dans ce rôle de dynamiteur de fiesta convenu, et bon chic bon genre, Rundi V. Bakshi n'est pas seul. Il a un allié involontaire, en la personne d'un serveur, interprété par le génial Steve Franken. Ce serveur se nomme Levinson. Levinson Il a un problème d'alcool. Et son ébriété est principalement due au fait qu'il avale les verres que les invités refusent. Or, Rundi Vebakshi refuse systématiquement de boire, malgré les propositions répétées de Levinson. Démarche incertaine, service plus que contestable à une table bourgeoise, son dernier geste sera de plonger amoureusement dans la mousse pour aller rejoindre une jeune femme aussi ivre que lui. L'alcoolisme, cette maladie souvent évoquée par Blake Edwards dans ses nombreux films, aide ici à supporter l'hypocrisie du monde et permet de le subvertir. Ce n'est pas l'alcoolisme de Levinson qui provoque le rire, mais les dégâts qui s'ensuivent de son état d'ébriété. Un autre allié, ou plutôt une autre alliée, est une jeune Française, une autre étrangère donc, Michèle Monet, interprétée par Claudine Longet. Elle le sauve de la noyade. Il la sauve des griffes du violeur, si elle se dévoue. Cette alliance est le début d'une belle histoire probablement. Le fait qu'elle soit étrangère à ce milieu explique et justifie leur rencontre. Ce sont deux étrangers qui se rencontrent et qui sont solidaires. Edwards ne se moque jamais de Bakshi ou de Levinson, mais des hôtes et invités qui jouent le jeu social, consistant à se saluer en permanence, se remercier mutuellement, évoque des souvenirs définitivement ennuyeux. Quand, à la fin de la partie, jeunes et moins jeunes dansent pour exprimer leur joie d'avoir assisté à la destruction de la maison, symbole du pouvoir et des conventions, on voit au centre de l'écran une jeune domestique afro-américaine exultée en enlevant son tablier blanc de serveuse. La domesticité noire étant le cliché de la société dominée par les blancs, dans la réalité comme au cinéma. Blake Edwards est un cinéaste particulièrement brillant. capable d'ajuster plusieurs niveaux de lecture en une scène et de créer des gags ou de les annoncer d'un léger mouvement de caméra. Juste une scène, quand Rundi Vebakshi, soucieux d'entrer en contact avec les autres invités pour s'en faire des amis, peut-être, s'intéresse à une partie de billard en cours, nous, spectateurs, voyons un cow-boy d'opérette nommé justement Wyoming Bill Kelso. Son nom est écrit en lettres scintillantes sur le dos de sa veste en jean. S'empresser auprès d'une jolie Italienne, la prendre en main, la ceinturer pour lui apprendre à utiliser la queue de billard. Rundi Vebakshi ne cesse de poser des questions sur les règles du jeu, tandis que l'autre essaye de s'amuser avec la jeune, c'est une jeune Italienne. Rundi Vebakshi s'extasie sur la chance qu'il a de rencontrer la grande vedette du cinéma, Bill Kelso. Bill Kelso, flatté, lui serre la main, ou plutôt la broie. L'Indien d'Asie et le cow-boy plaisante alors, en référence au rapport de nomination des Indiens d'Amérique. « Ah, 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 quel bonheur d'avoir la main broyée par le grand Wyoming Kelso !» Le cow-boy fait mine de tirer sur lui. Pendant ce temps, la jeune Italienne est toujours enlacée par la caricature de héros de l'Ouest. La scène dure longtemps quand enfin, l'Indien suffisamment humilié quitte le billard. La caméra l'accompagne d'un léger panoramique qui dévoile la présence d'un autre joueur jusque-là hors champ, en slow burn, appuyé sur sa queue de billard, attendant que Rundi Vebakshi dispose et que Wyoming Bill Kelso cesse de tripoter la belle Italienne. Blake Edwards n'a peur de rien. À plusieurs reprises, et pas seulement dans ce film, il s'intéresse aux situations les plus scabreuses. La mort, dont il rit, bien sûr, le sexe, dont il rit autant, la transsexualité qui fait mourir de rire, Victor Victoria, donc le transformisme, l'homosexualité, l'alcoolisme. Et si on peut dire quelque chose de définitif sur la partie, c'est que c'est une descente en flammes de la société hollywoodienne. Il a fallu près de 50 ans pour que l'affaire Weinstein et le mouvement MeToo mettent en évidence la réalité des comportements scandaleux de certains producteurs. Preuve qu'on ne regarde jamais sérieusement les films comiques. Et quelle erreur ! La partie est un brûlot antiraciste qui démontre que les sociétés qui n'accueillent pas l'autre pour ce qu'il est risquent de disparaître. Le tout dans un formidable éclat de rire et le moteur pétaradant de la voiture de Rundi Vebakshi s'éloignant au loin à l'image du taco de M. Hulot en vacances.
Cinéma sans frontières a été réalisé par Michel Najar, monté par Simon Moret. Le générique son est de Rémi Souze. Cinéma sans frontières.